Le journal, Benoît Bouscarel.
Bonsoir à toutes et à tous. Donald Trump, plus que jamais dans la tourmente, son nouveau responsable de la communication à peine nommé suite à la démission du précédent, que le président des États-Unis doit faire face à une nouvelle défection, celle de son porte-parole. Sean Spicer a quitté ses fonctions ce soir sur un désaccord profond. L'onde de choc de cette démission marque une nouvelle journée difficile pour l'administration Trump. Correspondance à suivre de Daniel Hoffman à Washington. Les constructeurs automobiles allemands soupçonnés de s'être entendus illégalement au sein d'un possible cartel, Volkswagen, Audi, Porsche, BMW et Daimler se seraient concertés, notamment sur les questions liées à la réduction des émissions polluantes de voitures diesel. Explication depuis Berlin de Pascal Thibault. En France, le Front National aimerait pouvoir se réinventer. Les cadres du parti d'extrême droite se réunissent jusqu'à demain en séminaire, un séminaire dit de refondation. Il s'agit de préparer le congrès du printemps prochain et de clarifier la ligne politique qui en a bien besoin. Les précisions de Christine Moncler dans ce journal. Une nouvelle crise ce soir à la Maison-Blanche après la démission fracassante de Sean Spicer depuis 6 mois et l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Spicer assurait les fonctions de porte-parole de la Maison-Blanche. On vient d'apprendre qu'il a été remplacé dans la foulée par Sarah Sanders. Considéré comme un républicain pur jus, Spicer avait pris ses distances ces derniers temps. Il apparaissait moins fréquemment lors des événements officiels, ce qui ne rend pas sa démission moins surprenante. Bonsoir Daniel Hoffman.
Bonsoir.
En direct de Washington pour France Culture, cette démission porte, quoi qu'il en soit, un nouveau coup dur à Donald Trump, plus que jamais empêtré dans les affaires.
Effectivement, la fragilité de cette administration est en train d'apparaître de manière éclatante. Et pour y faire face, Donald Trump cherche à s'entourer de proches, de combattants prêts à le défendre sur tous les fronts médiatiques. Le premier d'entre eux, c'est Anthony Scaramucci, ce financier de Wall Street de 53 ans, ami personnel de Donald Trump, qui devient directeur de la communication en remplacement de Sean Spicer, qui assurait l'intérim à ce poste. Spicer, qui, vous l'avez dit, était aussi également porte-parole du président américain et qui aura donc tenu 6 mois à ce poste avant de jeter l'éponge, visiblement excédé par la nomination de Scaramucci, qu'il juge incompétent. On retiendra surtout du passage de Sean Spicer à la Maison-Blanche. C'est face à face avec les journalistes de CNN ou du New York Times qu'il a souvent accusé de propager des fake news, l'exemple le plus célèbre restant sans doute celui du nombre de participants à l'investiture de Trump. Le porte-parole avait alors affirmé contre toute vraisemblance que la foule était la plus nombreuse de l'histoire. Autre conséquence de la démission de Spicer, et c'est la deuxième nomination du jour, Sarah Huckabee Sanders, vous l'avez dit, remplace au porte-parole à Sean Spicer, elle qui était jusqu'à présent sa numéro 2 depuis plusieurs semaines. Elle avait d'ailleurs pris une place plus importante dans l'organigramme de la Maison-Blanche, puisque c'est elle qui se présentait devant les journalistes pour les conférences de presse. Il faudra voir si elle tient plus longtemps que son prédécesseur dans un poste très fortement exposé.
Merci Daniel Hoffman en direct pour nous de Washington. Et au moment d'annoncer la nomination de la remplaçante de Sean Spicer, Anthony Scaramucci s'est voulu rassurant. La Maison-Blanche, selon lui, n'est pas en proie à des querelles intestines. Fin de citation. Le président américain Donald Trump, de son côté, a déploré que le travail accompli par la Maison-Blanche 6 mois après l'installation de son administration n'est pas assez reconnu. Un vendredi sous très haute tension au Proche-Orient, les heurts violents qui se sont succédés tout au long de ce jour de grande prière ont fait au moins 3 morts côté palestinien. Les affrontements ont eu lieu à Jérusalem-Est et dans l'ensemble de la Cisjordanie occupée. La tension monte depuis une semaine, notamment autour de l'esplanade des mosquées, après l'attaque qui avait coûté la vie à 2 soldats israéliens dans la vieille ville de Jérusalem la semaine dernière. Ce soir, le président palestinien Mahmoud Abbas annonce un gel des contacts avec Israël tant que les nouvelles mesures de sécurité mises en place par l'État hébreu autour de l'esplanade des mosquées ne sont pas annulées. En Allemagne, depuis une vingtaine d'années, les constructeurs automobiles auraient enfreint la loi en organisant un cartel. C'est une révélation aujourd'hui de la presse allemande. Elle indique que tous les géants de l'automobile allemande, Volkswagen, Audi, Porsche, BMW et Daimler, se seraient concertés, notamment sur la réduction des émissions des voitures diesel. Des groupes de travail secrets et illégaux auraient été constitués pour échanger sur les techniques utilisées, notamment pour évaluer les émissions polluantes. Une nouvelle affaire qui ternit encore un peu plus l'image d'un secteur déjà sous pression. À Berlin, Pascal Thibault.
L'amende pourrait être salée. D'après un expert, ce sont plusieurs milliards d'euros que les constructeurs automobiles allemands pourraient devoir payer. Depuis les années 90, en effet, Audi, Porsche, BMW et Daimler se sont concertés, par exemple, sur les émissions polluantes de leurs voitures diesel. Un tel cartel est interdit car il contrevient aux règles de la concurrence dans une économie de marché. Le magazine Der Spiegel sort cette affaire et révèle que des groupes de travail secrets réunissant les constructeurs automobiles se sont réunis pour se mettre d'accord sur des normes techniques, les coûts, les sous-traitants ou les marchés. Les décisions prises au détriment de l'environnement sur les émissions polluantes des voitures diesel constituent le fondement du scandale qui frappe ce secteur depuis les révélations il y a 2 ans sur des logiciels truqués de Volkswagen. Aujourd'hui, tous les constructeurs sont concernés. Les entreprises n'ont pas souhaité faire de commentaires après ces nouvelles révélations, pas plus que l'autorité de la concurrence. Les informations égratignant un peu plus un secteur économique à l'image déjà ternie ont eu des conséquences négatives immédiates sur le cours des constructeurs automobiles à la bourse de Francfort. Ces révélations interviennent au mauvais moment alors que l'industrie automobile est sous pression en raison de menaces d'interdiction de circuler de voitures diesel trop polluantes dans certaines grandes villes. Un sommet entre le gouvernement et les constructeurs est prévu à Berlin le 2 août.
Correspondance de Pascal Thibault. En France, peu d'informations ont filtré à l'issue de la première journée du séminaire de refondation du Front National. Jusqu'à demain, la quasi-totalité des membres du bureau politique du parti doivent se pencher sur l'avenir et sur la ligne politique, et donc sur les questions qui fâchent, parmi lesquelles la sortie de l'euro, le fonctionnement et l'identité du parti, avec éventuellement un nouveau nom. Toutes ces questions devront être tranchées au printemps prochain par les adhérents lors du congrès du Front National. Le débat est d'ailleurs aussi lancé sous forme de consultation en ligne et il est déjà vif. Christine Moncla.
L'exercice de démocratie participative passe d'abord par un retour à l'autodiscipline. Rien ne filtre. Cette fois, les cadres respectent à peu près la consigne. Après des semaines de déballage sur la place publique, Marine Le Pen, qui devait remettre la France en marche, remet d'abord de l'ordre dans son propre parti. Autour de la table, toutes les générations frontistes sont là, des lepénistes historiques aux jeunes philippotistes, chacun droit dans leurs idées, les premiers pour un retour aux fondamentaux, immigration, sécurité, les autres pour une normalisation du parti. Avec aussi quelques prétentions, le numéro 3, Nicolas Bay, qui veut se faire remarquer sur sa ligne libérale traditionnelle, ou Valrande Saint-Just, l'ex-avocat de Jean-Marie Le Pen, qui veut jouer les gardiens du temple. Et Marine Le Pen, en arbitre, qui joue, elle, sa place de présidente. L'exercice est un pari pour elle, il lui faut retrouver la confiance de ses troupes, écornées par ses erreurs de campagne, et puis trouver un point d'équilibre pour réussir à incarner ce FN de demain. À ce titre, le nom choisi pour remplacer Front National sera crucial et dira tout de la future ligne du parti. Il faudra qu'il signifie patriote, alliance, droite, républicain peut-être, mais aussi national aussi et surtout, car les conclusions de ce séminaire seront ensuite soumises aux adhérents et le moteur du vote frontiste jusqu'à aujourd'hui n'est pas l'euro ou l'économie, mais bien l'immigration.
Christine Moncla, faut-il permettre aux femmes ayant eu 3 enfants au moins de valider leur expérience en facilitant pour elle l'obtention d'un CAP petite enfance. L'idée vient du gouvernement. Il s'agirait, d'après ses promoteurs, de lutter contre la précarité professionnelle et sociale des femmes. La secrétaire d'État à l'égalité, femmes-hommes, Marlène Schiappa en fait partie. Et elle vient d'annoncer que le dispositif est à l'étude, ce qui ne va pas sans susciter déjà de vifs débats. Explication de Laure Verneau.
Cette proposition vise à se faire rencontrer la demande de professionnels de la petite enfance en crèche et l'offre des compétences des mamans, compétences qu'elles peuvent compléter via ce dispositif diplômant. La thématique des modes de garde pendant le travail est chère à Marlène Schiappa. Il y a 10 ans, elle s'est fait connaître par son blog Maman Travail, où elle raconte son quotidien de jeune mère avec des horaires à rallonge à l'agence Havas. Reste que cette décision fait débat. Dans une tribune publiée par l'Obs, Julie Marty-Pichon, coprésidente de la Fédération Nationale des Éducateurs de Jeunes Enfants, explique qu'il ne suffit pas d'avoir des enfants pour s'occuper de ceux des autres. Comprendre, il n'y a pas de corrélation. C'est très stigmatisant, estime-t-elle, envers les femmes et les hommes qui ont acquis le diplôme. Pour Camille Froide-Vométhéry, professeure de sciences politiques à l'université Champagne-Ardennes, cette corrélation serait de plus enfermante. Le secteur des travail du care, du domaine du soin en anglais, est précaire, peu valorisé socialement et à 80% constitué de femmes. Et ça s'explique par une essentialisation insidieuse, mais pourtant bien présente, que parce que les femmes font des enfants, elles auraient une prédisposition naturelle pour les soins à la personne. Un peu comme si on affirme affirmer que parce qu'on a des grands-parents, on serait doué pour s'occuper des personnes âgées.
Laure Verneau. Le temps de la récolte est arrivé. C'est avec ces mots que François Hollande est sorti de son silence. Ce soir, l'ancien chef de l'État s'exprimait pour la première fois depuis la fin de son mandat en mai dernier. Et il estime laisser une situation qui, dit-il, peut être utile à son successeur. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré à la presse lors d'un déplacement à Arles sur le thème de l'engagement. François Hollande a toutefois refusé de commenter l'action d'Emmanuel Macron en invoquant un devoir de réserve et de retenue. Un temps chaud et bien ensoleillé sur le sud de la France demain. On attend sur ces régions jusqu'à 33 degrés. Ailleurs, le temps sera instable, nuageux et passagèrement pluvieux. Les averses passagères pourront prendre localement un caractère orageux, notamment dans le courant de l'après-midi. 23 à 29 degrés, voilà pour les températures maximales en début d'après-midi sur le nord.